Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'audio. Enfin, au Chana Rabat, je voulais faire un audio, mais finalement, ça s'est transformé en live. Et ben, au prochain, ça s'est très bien passé. J'ai pensé faire un live, plus que de toutes les manières, il y avait la veillée d'Oshana Rabat, donc je me suis dit c'est mieux de faire un live qu'un audio, je voulais un peu changer. Les lives, c'est sympa aussi. Et de se voir. Et je me suis dit qu'il y aurait, on va dire, une dizaine, quinzaine de femmes, on étudierait, puisque de toutes les manières, c'était la veillée, donc il fallait étudier ensemble et tout, parler de Torah. Et bon, moi j'ai un compte Zoom qui est bloqué à 100, il y avait 100 femmes, et il y en avait d'autres qui m'ont dit on pouvait plus rentrer. Donc bon, HM, vraiment, les femmes, elles sont fans d'HM, elles sont fans de la Torah, et c'est ce qui fait vraiment la réalité du passouk, de ce que disent nos sages, que c'est par le mérite des femmes que nous sortirons de cet exil, parce que vraiment, c'est une réalité que je vois au quotidien, que ce soit chez les jeunes filles, les femmes, bref. Encore hier soir, que j'ai donné un cours dans une banlieue, mais des femmes, mais quoi extraordinaire. On n'est plus du tout aujourd'hui dans l'aspect extérieur. L'aspect extérieur n'est plus parlant. Il influe sur la personne, c'est certain, mais il n'est pas révélateur de son fond, mamache. Et moi, je le vois d'une manière très concrète. Donc voilà, depuis Oshana Rabba, on est sorti des fêtes. Et ben, au Hachem, on a prié depuis Rosh Chodesh Elul, on a dansé, on s'est investi, etc. Et voilà, aujourd'hui, Rosh Chodesh Cheshvan, nous revoilà dans les Hallel et les Bereshit. Il y a beaucoup de Bereshit en ce moment. D'abord, c'est le Bereshit de l'année. En plus, c'est le Bereshit dans la Parashat HaShavua également, parce que Noar, c'est un nouveau Bereshit. La semaine dernière, c'était le premier Bereshit. Cette Parashat-là, c'est le deuxième Bereshit. Et je voulais donc vous souhaiter une Shana Tova et que Bezrat Hashem, chacune, elle puisse réaliser ses rêves, réaliser ses projets, grandir, se remplir, que chaque foyer se remplisse de Torah et on va en parler, que chacune de vous se remplisse de joie, de sérénité, s'éloigne de tous ces bilboulis, mais on va en parler justement par les eaux du Maboul, les eaux du déluge. Et voilà, Baruch HaShem, que cette année-là fasse que Dieu nous remplisse de merveilles dans tout et que nous puissions encore continuer à partager comme ça Torah. Ça fait maintenant 2 ans, Baruch HaShem, que ces gros WhatsApp existent et les perles. Et grâce à Dieu, c'est 2 ans de partage, 2 ans d'évolution, de progrès. Et c'est moi la première, comme je vous le dis à chaque fois, qui progresse, qui prend. Et ça, c'est extraordinaire. Alors vraiment, que Dieu fasse que nous soyons toujours dans cette lumière de la Torah, toujours dans cet élan vers les mitzvot. Même si nous avons des journées très chargées, enfin là, ça commence déjà, là. Et c'est pas grave, parce que l'action, c'est ce qui fait que nous sommes en bonne santé. L'action, c'est ce qui fait que nous sommes dans le zèle tout le temps, dans l'enthousiasme, parce qu'il n'y a que l'action qui fait que tu es bien. L'ennui, il n'y a pas pire que tout. Et que cela, je veux dire. Et donc, qu'on soit toujours, même si on a des journées remplies, qu'on soit toujours dans cette dynamique-là. Alors, Atrala Chadasha, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau mois, c'est une nouvelle paracha, c'est un nouveau chumash, tout est nouveau, tout est frais. Tout vient de naître. Rien n'est comme avant. Plus rien à partir de maintenant ne sera comme avant. C'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas des pidgamim, ce n'est pas des dictons, ce n'est pas des slogans. C'est quelque chose qui est réel. Pourquoi? Parce que nous avons passé Rosh Hashanah. Dès l'instant où nous avons passé Rosh Hashanah, on a étudié là-dessus le chauffard, la forme du chauffard, qui ressemble à une matrice, dit le Hadmour HaZaken, qui ressemble à cet organe de renaissance, le chauffard qui commence par un petit orifice et qui finit par un grand, comme l'utérus, qui est tout petit, un membre tout petit, pas plus grand que le poing d'une main, et qui se développe, développe, développe jusqu'au 9e mois. Il est énorme. Eh bien, le chauffard, c'est exactement ça. Juste avant de faire naître l'enfant, donc, et l'utérus, avant de reprendre sa place, il donne la vie. Le chauffard, c'est ça. On commence par l'étroitesse et on termine par la largesse. C'est-à-dire que ça nous fait renaître. On arrive à Rosh Hashanah fatigué. Et après la sonnerie de Kiryat Shofar, on a un nouveau mazal, une nouvelle âme qui nous est donnée. C'est la triat hametim de nous-mêmes. C'est l'accouchement d'une nouvelle personne de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nous qui avons accouché de quelqu'un, d'une autre personne. Et donc, c'est la réalité que c'est une atrala chadasha. C'est exactement ça que nous ressentons en notre âme. Ça y est, la page est tournée. Maintenant, à nous d'écrire une nouvelle, un nouveau récit, une nouvelle page de notre histoire qui va s'appliquer, qui va porter le titre de ton nom. On va dire, je sais pas moi, Esther Cohen, Léa, Léa Lévy, peu importe. Esther Cohen en 5782. Allez, vas-y, et commence à écrire. Commence à écrire ta vie. Commence à écrire tous tes nouveaux projets, tout ce que tu as commencé, qui n'aura rien à voir avec l'année précédente. Pourquoi? Parce que l'Admour Hazaken nous dit que au moment du chauffard, Dieu il a renouvelé le or. Le or, l'énergie vitale qui est renouvelée dans le monde, qui n'a rien à voir avec celle de l'année dernière, qui puise sa source dans la création du monde, dans Bereshit Bara Elohim, et donc qui est complètement nouveau. Et cette renaissance, ce or-là qu'on a tout eu en nous, que chaque juif a pu bénéficier en écoutant le shofar, eh bien c'est ce or-là qui fait que tu es une nouvelle personne, avec une nouvelle, avec un nouveau mental, avec un nouveau cœur, avec des nouveaux sentiments, avec des nouvelles pensées, avec des nouveaux projets, avec des nouvelles paroles, tout est nouveau, avec un nouveau regard sur le monde. Donc aujourd'hui, en 5782, commence à écrire ta page, commence à écrire ton récit, commence à écrire ton nouveau, tes nouveaux objectifs, tes nouveaux élans qui vont t'accompagner tout au long de cette année-là et qui vont faire partie du rouleau de la Torah. Chaque lettre dans la Torah correspond à une neshama. 600 000 âmes. Chaque lettre est une âme. Et ce qui veut dire que tu as ton nom, tu as ton âme dans la neshama, dans le Sefer Torah. Et si tu as ton nom dans ce Sefer Torah, c'est que tu fais partie de l'histoire. Mais cette histoire, elle, c'est à toi de l'écrire. Et donc, c'est 5782. 5782. À partir d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Cheshvan, c'est plus à la suite, on n'est pas dans la suite des fêtes. Nous sommes dans un nouvel univers. C'est Mamash Natrala Chadasha. Et c'est un effort mental que Dieu nous demande de faire. Je t'ai fait renaître. Alors, ne regarde pas l'âge de la carte d'identité, on s'en fiche royalement. Regarde toutes les nouvelles forces que tu as en toi. Alors toi, tu vas dire, je vois pas où j'ai des forces. On a eu un mois, même peut-être plus, de fatigue, de course, de plein d'efforts, et financiers et physiques, et qui, bon voilà, maintenant on se repose un peu. Alors, ça, c'est le Satan qui vient et te dit maintenant repose-toi. Noar, c'est le repos, c'est la sérénité. Non, Noar, c'est le repos, ce n'est pas le repos, c'est justement... je ne vais pas maintenant parler tout de suite de Noar, mais l'après-fête, c'est justement le moment de continuer, ne t'assois pas, continuer à œuvrer, à mettre justement en action toutes les promesses que tu as faites et toutes les forces que t'ont données Tishri. Il n'est pas ici question de repos physique. Bien évidemment qu'on a besoin de repos physique. Il est question ici de repos de l'âme. Le repos de l'âme est interdit. Le Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson a dit l'homme doit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Ouais. Non, je crois que c'est l'Admour Hazaken qui l'a dit, Rabbi Shneur Zalman. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Bien sûr que matériellement, tu dois te contenter de ce que tu as. Voilà. Et faire de la joie et du bonheur ce que Hachem t'a donné. Et pour le reste, tu pries de ce que tu as besoin encore qu'il te donne. Et il te donnera Bezrat Hachem. Ça, c'est pour le matériel. Mais le spirituel, jamais un homme doit être Ashir, doit être sa mère Bechelko. Jamais un homme doit être réjoui de sa part. Ça va, Baruch Hashem, on a prié, on a mangé, on a fait le kiddush, on a écouté le shofar, on a été à Tachlir, on a trempé la pomme dans le miel, Yom Kippour, on a jeûné toute la journée, on a fait les caparotes la veille, Soukot, les caddies, pas les caddies, monte, descend, cuisine, serre, dessert, vaisselle, course. Oh Hachem, ça y est, on a donné ce qu'il avait besoin, Hachem, maintenant on va prendre un petit peu de repos spirituel. Ça va, on peut faire une parenthèse. Jamais de la vie. Loi de Mouraza Kennedy dit que nous ne devons jamais être satisfaits de notre condition spirituelle. Ça, c'est uniquement valable pour le physique, pour le matériel. Oui, on a besoin de repos. Bien sûr qu'on a besoin de repos. Il faut se reposer. C'est pas un problème, ça. Chacune, elle trouve la définition de son repos comme elle le veut. Il y en a qui dorment, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont se détendre, qui vont lire un livre, il y en a qui vont marcher avec leur mari, il y en a qui vont prendre un café avec une copine. Chacun a sa définition du repos. Il n'est pas question de ça ici. Il est question ici de repos spirituel. Il est interdit de se reposer spirituellement. Dès l'instant où tu arrêtes d'être dans l'action, dès l'instant où tu cesses d'être dans la fougue, de l'enthousiasme et le zèle des maasim, tu deviens la proie du Satan. Ni plus ni moins. Tu deviens la proie du Satan. Ma'alin bakodesh velo moridin. Il a dit il à la Zaken, dans la Gemara. Dans la Gemara Shabbat, on a l'habitude de monter Bakodesh dans la Gdusha, mais jamais de descendre. Hillel, pourquoi tu nous précises de ne jamais descendre? Hillel aurait pu dire, il est interdit, on doit toujours monter Ma'alin Bakodesh, point. Je comprends que si je ne monte pas, je ne monte pas, voilà. Je m'arrête sur mon ascension. Non. Hillel y précise, Ma'alin Bakodesh Velom Oridin. C'est-à-dire que je dois monter, faire un effort chaque jour pour augmenter, pour progresser spirituellement, parce que si je ne le fais pas, je régresserai automatiquement. Si je ne progresse pas, si tous les matins je ne fais pas ma tefila, si tous les matins je me lève pas tôt pour prier, si tous les Shabbats je ne fais pas des efforts pour Shabbat, si tous les jours je ne fais pas d'efforts pour parler à mes enfants, pour leur raconter des histoires avant de dormir, pour leur dire combien je les aime, pour tous les efforts que tu fais tous les jours pour que ta maison elle tienne, dès l'instant où tu cesses de le faire, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas il se passe rien, il se passe le contraire de ce qui se passe, de ce qui se passait quand tu faisais le bien. Ça veut dire que là, ici, maintenant, les brèches sont faites. Dans le mur de protection que tu as mis dans ta maison, dans ta teva, dans ton baït. Et là, le satan, il commence à rentrer. Tu commences à t'ennuyer et tu cherches là où il ne faut pas chercher. Et tu vas peut-être faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il commençait à penser, à gamberger, comme disent les mamies, commencer à réfléchir à des choses qu'il ne faut pas réfléchir. Et ça, c'est quand tu as le temps. Donc, je te souhaite d'être tout le temps dans l'action. Tout le temps entouré d'emplois du temps chargé. C'est la plus grande des bénédictions, mamache. Donc voilà, La préfète n'est pas là pour nous donner un repos, pas du tout. Elle est là pour nous dire continuez à travailler, continuez à œuvrer. Et c'est ça qui vous emmènera la bénédiction. Et c'est ça la Hatrala Chadasha, c'est ça le Bereshit. Et surtout que ce soir nous sommes Rosh Chodesh Cheshvan. Cheshvan, c'est Mar Cheshvan. On a l'habitude de dire qu'il est amer parce qu'il n'est pas de, il n'a pas de fête. Bon, plusieurs raisons, on dit qu'il est amer. On dit qu'il est amer parce que il n'a pas de fête, parce que alors j'ai oublié les raisons pour lesquelles on dit qu'il est amer aussi, parce que ça je les ai entendues du Rav Rosenbaum mais j'ai pas pris note. Voilà, ma mémoire elle me fait défaut, c'est la vieillesse. Et donc en tous les cas, le mois de Cheshvan n'est pas c'est pas Tisha B'Av, il n'est pas amer dans ce sens-là, il n'a pas de fête volontairement. Nous dit le Rabbi, parce que justement, Cheshvan, c'est le Keli. Le Keli, nous dit la Chassidoute, ça veut dire l'ustensile dans lequel tout ce que tu as semé, Tishri, depuis Rosh Chodesh et Elul, ça veut dire 2 mois, tout ce que tu as semé, prié, tu t'es fatigué, tu as donné, tu as servi, tu as prié, tout ce que tu as pleuré, ce que tu as étudié, etc. Tout ce que tu sais, c'est l'époque des semences, de l'ensemencement. Et vient Cheshvan, ce mois qui est vide. Vide de tout. Ah oui, voilà pourquoi il est amer. Une autre raison, c'est que Rachel Imenu, elle est Nifteret en Cheshvan, 11 Cheshvan. Et donc, il est vide de tout. Si bien qu'on l'appelle amer, il a de l'amertume. Alors, le rabbi explique qu'en réalité, il est vide pour justement être le réceptacle de toutes les bénédictions, de toutes les abondances en cascade que Dieu va nous envoyer par rapport à ce que nous avons semé en Tishri le mois d'avant. Donc, en fait, Cheshvan, c'est la suite naturel, normal de Tishri. C'est comme quelqu'un qui a rempli sa bouteille d'eau jusqu'en haut d'eau, et l'étape suivante, c'est qu'il va il va déverser cette eau dans un verre pour la boire. C'est exactement ça. L'eau remplie jusqu'en haut, la bouteille d'eau remplie jusqu'en haut, c'est le mois du Tishri. Cheshvan, c'est le verre. Le verre dans lequel va se déverser toutes ces brachotes-là, toutes ces bénédictions, tous ces efforts que nous avons semés au mois de Tishri. Donc, c'est magnifique parce qu'il y a toujours cet aspect positif. Maintenant, Cheshvan, c'est aussi Merachashi, ça vient du mot Merachashin. C'est-à-dire que les lèvres, elles murmurent encore. On a encore au bout des lèvres, en Cheshvan, les chants de Tishri. Pour certains, c'est Kel Noah, Lila, suivant ces communautés, etc. Beshat Aneila, Kel Noah, Amtila, Numechila, Beshat Aneila. Chez d'autres communautés, ça sera Ochila, la Kel, Achalefanav. Ça veut dire vraiment, c'est chacune avec les chants qu'elle a murmuré toutes les fêtes de Tishri. Et ça, en Cheshvan, c'est encore au bout de notre lèvre, de nos lèvres. Donc ça vient du mot murmure, Cheshvan. C'est ce que disent les Chachamim. Après, quand il y en a qui se lèvent, ça sera plutôt les beignets et compagnie. Mais là, pour l'instant, on n'est pas dedans. Et donc, c'est justement cette bracha magnifique qui nous attend pendant le mois de Cheshvan qui va être déversée sur nous. Alors, on va comprendre on va étudier maintenant, rentrer dans le vif du sujet, qui est la fin. La semaine dernière, c'était Bereshit. Bon, j'ai pas fait d'audio en Bereshit parce que, bien qu'il y a certaines qui l'ont demandé, à moi ou peut-être à Perla, je sais pas, en tous les cas, à moi, oui, parce que on est sorti de la fête mercredi en France. Mercredi soir, et voilà, jeudi, c'était une journée qui était très remplie. Et donc, j'ai pas pu faire d'audio sur Bereshit, mais on aura d'autres occasions de se rattraper pour ce sujet-là de Bereshit, puisque de toutes les manières, c'est la création de l'homme et de la femme. C'est ça qui est le point central de la création du monde. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, il a créé le Shabbat. Il a arrêté, il a interféré, il a arrêter d'interférer avec la nature. Et le septième jour, c'est à la fin du sixième jour, pardon, c'est la Briat à Adam. Briat à Adam. Alors, j'ai oublié de nominer l'élévation, les Neshamot pour lesquels sont donnés ce cours, lié au Yehoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Yitzhak, Yekutiel ben Esther ou Mesaoud, Esther Myriam bat Arichot Yamim Baruch Leib, Karen Cohen bat Yehuda et Shoshana bat Chana. J'ai commencé directement avec le vif du sujet et j'ai... Voilà. Et donc, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme qui est la couronne de la création, qui va faire vivre la création. Après, Adam a cherché son binôme, qu'il n'a pas trouvé au prix des animaux, donc Akadosh Baruch Hu lui a donné Chava. Et à partir de cela, a commencé l'humanité, à partir de ce nouveau couple, à tout frais, tout beau, tout propre, tout magnifique, a commencé l'humanité. L'humanité, pas exactement comment elle avait été prévue, puisque Chava a fauté. Et elle a, en fautant, elle a plongé l'humanité dans le monde, dans le rocher pour 6000 ans d'obscurité. Nous arrivons bientôt à la fin, Beshavatova. Et à partir de là, c'est à elle à rallumer. Et toutes les mitzvot que Dieu lui a données, c'est que de la lumière. De la lumière pour rallumer tout ce qu'elle a éteint dans ce monde. Les Nérots de Shabbat, c'est lumière. Elle fait descendre des orotes dans les mitzvot qu'elle accomplit, qu'un homme ne peut pas faire. Les lumières de Shabbat, ce sont les orotes qu'elle fait descendre en les allumant. Pour sa maison et pour tout le monde entier. Quand elle prélève la challah, elle fait descendre des orotes dans le monde et pour sa maison, pour tout le monde entier. Quand elle prélève, même si un homme doit prélever également, à partir de 1,6 kg, 1,225 kg pour certains, eh bien, l'homme doit faire cette mitzvah également. Mais quand c'est la femme qui le fait, nous dit la chassidoute, c'est elle qui dévoile. En plus de cela, de la mitzvah qu'elle est en train d'accomplir, beaucoup, beaucoup de lumière dans le monde. Et également le mikveh, où elle est la seule détentrice de cela. C'est-à-dire que c'est elle qui a la couronne de faire descendre la neshama dans le corps. Et pour ça, il faut beaucoup de kdusha, beaucoup de tahara. Et quand elle s'immerge dans ces eaux d'Éden, elle redevient justement cet être nouveau qui va faire naître le Ham Israël. Donc, ça, c'était juste un point je m'arrête volontairement ici parce que après je pourrais pas faire un audio long, ça va peut-être vous fatiguer. Alors, Parashat Noach, le rabbi pose la question, on commence directement avec le rabbi, où le rabbi pose la question, on sait très bien que le nom de la paracha met en relief le contenu de la paracha. On sait très bien que le contenu de la paracha est contenu et en général représenté par le titre de la paracha. Or, dans cette paracha, on voit qu'il y a une extermination totale du monde entier. Hachem a décidé de noyer toute sa création. Une situation d'événement apocalyptique, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu avant et qui n'aura jamais plus eu lieu, qui ne sera jamais plus par la suite, à l'avenir, puisque Dieu a fait un pacte avec Noé et pour toutes les générations à venir. On voit également la tour de Babel, Dora Flaga, cette génération qui a voulu rentrer en guerre contre Dieu, ces hommes-là, en construisant une tour énorme où il fallait un an pour la monter, pour atteindre le sommet, tellement elle était haute. Et bref, c'est une série d'événements, quoi. Et quel est le titre de cette paracha? Malgré tous les événements catastrophiques que nous étudions dans cette paracha, le titre de cette paracha s'appelle Noar. Et Noar, qui dit le Midrash, c'est Noar Lashon Menucha. C'est-à-dire, c'est un Noar, c'est un langage de repos, d'apaisement, de calme. Alors, je vois pas où est le calme. Le rabbi dit, le Maboul, le déluge, c'est le premier sujet avec lequel on a affaire dans la paracha. Alors, où est le Menoucha? Où est la Menoucha? Où est le repos? Où est le calme? Où est le waouh? Où est le tout va bien? Alors, en réalité, le rabbi explique que le titre de la paracha, il sous-entend un sens très profond, qui se cache justement derrière les sujets difficiles et tristes, parce qu'il y a ici le sujet de punition, etc., qui se cache derrière ces sujets-là de la paracha, ces sujets difficiles. Il est vrai que le Maboul, Dora Flaga, tous les événements que nous voyons dans cette paracha-là sont contraires au nom de la paracha, à l'apaisement. Ils sont contraires au repos, ils sont contraires au calme. Mais le rabbi continue et dit, le Maboul avait pour objectif de purifier la terre. Il avait pour objectif de faire d'immerger le monde dans un mikvé géant. D'accord? Et si bien que après un an, Noah sort de la Teva, au mois de Cheshvan, et il d'après un certain avis de la Gemara, il dit, il est écrit, Noah ra'a olam chadash. Il a vu un nouveau monde. Un monde qui avait un niveau très très haut. Il était complètement pur. C'était quelque chose de complètement nouveau. Et c'est la raison, c'est suite à cela où Hachem a fait le pacte avec Noar. Les Dorot Olam, c'est-à-dire c'est jusqu'aujourd'hui. Hachem peut punir une partie de l'humanité, mais peut pas s'est engagé à ne plus plonger l'humanité dans une mort certaine. Donc, les étapes ont été difficiles, bien sûr. Le Maboul, etc., tout ça, ça a été très difficile, mais la fin, elle a été bénéfique. Parce que finalement, ce déluge-là, il a fait œuvre de mikvé. On en parlera tout à l'heure, Bezrat Hashem. Ça, c'est le sens profond. Donc, le rabbi va expliquer ce que ça veut dire. Parce que derrière ce Maboul, ça a donné finalement un monde apaisé, un monde calme, un monde nouveau, propre, sage. Et l'humanité, elle était devenue l'espoir. Ces nouveaux hommes qui allaient naître, et bien c'est devenu l'espoir d'un nouveau monde. C'est exactement le sens profond de toutes les difficultés et les épreuves qu'une personne peut traverser dans sa vie. Et le rabbi va toucher à un point qui est très important. Malgré le fait que quand une personne traverse des difficultés, lorsqu'une personne connaît des embûches sur sa route ou des épreuves, que Dieu en préserve, eh bien, derrière ces épreuves-là, il y a une bonne kavana. Il y a une bonne intention du divin. Et le rabbi dit, c'est dafka, par ces embûches même que nous traversons, d'accord? Et c'est face aux défis que lui tendent ces embûches, que l'homme, qu'il réussit à les relever, que l'homme grandit. Il grandit de quelle manière? Il a réussi à transformer ce qui était négatif, ce qui était un maboule, une mer énorme, un mur de mer devant lui, énorme qu'il était impossible de traverser. Il a réussi. On va expliquer comment, le Rabbi va expliquer comment on atteint cette réussite. Il a réussi à trouver les étincelles de Kdusha, les Nekudat Or, les points de lumière à l'intérieur de ces embûches et de ces difficultés. Et il en a fait des défis à relever. Et à partir de ces défis-là, qu'il a réussi, avec l'aide de Dieu, à relever, eh bien, ça l'a aidé, ça aide la personne, ça améliore la personne dans son Avodat Hashem. Voilà. Là maintenant, on peut penser que voilà, après toutes les fêtes qui sont passées, etc., c'était tellement beau, les chants, les danses, la kdoucha, les repas, les kiddouches, la famille. C'était fatigant, mais c'était tellement beau. On était dans un tourbillon magnifique. Dans un tourbillon magnifique. À Kadosh Baruch Hu, on a été à sa rencontre pendant tout le mois de Elul. On a fait tchouva. On a été jugé à Rosh Hashanah. On est passé en Yechidut devant Hachem à Yom Kippour. Puis, à Kadosh Baruch Hu nous a pris dans ses bras à Soukot. Et il a désiré avec nous nous retrouver en tête à tête à Shmini Atzeret. Dans une grande joie. Parce que Shmini Atzeret, c'est que pour nous. C'est pas pour les nations du monde, alors que les 7 jours de Soukhot, oui. Et puis, voilà, tout ça, Simcha Vatashoeva, etc. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Plus rien. Heureusement qu'il y a les Shabbatot qui jalonnent un petit peu le mois, là, pour qu'il y ait un petit peu quelque chose, mais plus rien. Que le travail, le travail, le travail, le travail. Et une personne, elle peut rentrer comme ça dans le maboule du monde, dans le déluge du monde. Ça peut lui causer un bilboule, c'est-à-dire. Et on rentre directement dans les soucis du quotidien. Les soucis, on est directement projeté dans les soucis du quotidien et tout revient. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec ce travail, pas ce travail, etc., etc. Et ça devient des soucis, ça devient des angoisses. Et vient Noar, vient la parashat Noar, vient la Teva, vient le Maboul. Et son bilboul, comme dit Rashi. Rashi, Maboul, il va donner plusieurs définitions du Maboul, de ce que c'est un déluge. Et tous ces concepts-là nous enseignent quelque chose. Parce que vous savez très bien que dans la réalité, Akadosh Baruch Hu a caché les leçons qu'il veut nous donner. Il a caché les enseignements que nous devons prendre dans les récits de la Torah. Et la Chassidoute, comme les côtés profonds de la Torah, nous donne ces définitions-là, au-delà du récit lui-même, qui est déjà, waouh, rempli. Le texte, les midrashim, les commentateurs, etc. C'est déjà énorme. Mais venez, on touche directement le fond. Le fond, ça veut dire les profondeurs. La Torah Tachassidou du Baal Shem Tov, elle dit comme ça, que pour se protéger, justement, de tous ces bilboulim qui nous mettent la tête souvent complètement à l'envers, qui nous donnent des soucis, les soucis du quotidien, de la parnassa, les soucis, peu importe, les soucis que chacun peut rencontrer. Eh bien, pour être protégé de ça, d'accord? Puisqu'on a dit tout à l'heure que derrière ce maboula, il y a quelque chose de bien. Le Baal Shem Tov dit, il prend les mots du pasouk que Dieu dit à Noar, Bo el Ateva, rentre dans l'arche. Et le Baal Shem Tov dit, pour se protéger du maboul extérieur, de ces eaux tumultueuses de la vie extérieure, des soucis du quotidien, Bo el Ateva, rentre dans la Teva. C'est quoi la Teva? Teva, c'est double traduction. Un, c'est l'arche, qui rentre tout à fait dans cette explication-là, qui est la maison, comparée à la maison. Et deuxième traduction du mot Teva, Tav, Bet et He, ça veut dire un mot, M-O-T. Rentre dans les mots, dit le Baal Shem Tov. Teva, ce sont les mots. Les mots de quoi? Les mots de la Torah, les mots de la Tfila. Et dès l'instant ou face au Maboul, tu rentres dans les mots. Ça veut dire tu te colles, dit le Baal Shem Tov. Tu te colles à eux. tu es protégé d'être noyé dans le déluge des soucis. C'est pas que les soucis sont plus là. Le déluge, il est là. Les eaux tumultueuses, elles sont là. Mais toi, tu as une autre dimension face à cela. Tu as une autre grandeur. Tu as une vue qui est complète, qui est beaucoup plus lointaine. Et un cadre, un spectre qui est beaucoup plus large. Beaucoup plus large, qui te permet de prendre les choses avec la hauteur que la Torah, elle te donne. La Parashat HaShavua, elle t'apprend, elle m'apprend, elle nous apprend à chaque juif. Heureux celui qui l'étudie, mamash, cette Torah-là, Hakdosha, elle nous apprend comment réagir et comment penser et affronter les soucis du déluge. Ça veut dire les bilboulim, les confusions dans la tête, les idées confuses. On ne sait plus quoi faire. Est-ce que je reste avec lui? Je reste pas avec lui. Est-ce que je divorce ou je reste? Est-ce que je continue avec ce travail ou je continue? Enfin, comment je peux organiser? Je peux améliorer ma relation avec cette personne-là? Que des nœuds on a avec les gens, avec les situations, etc. Tout ça, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on est obligé de se noyer dedans? Est-ce que nous sommes obligés de prendre tout à bras-le-corps et plonger les pieds joints dans le problème, dans le déluge, dans ces eaux traumatisantes? Non! Le Baal Shem Tov, il vient et te dit: Bo Ela Teva, pénètre-toi de tous les mots de la Tfila. Transforme tes angoisses en Tfila. Utilise tes moments. Oh, aménage-toi, parce que tu n'en as pas des moments libres, on va imaginer. On n'a pas de moments libres. Donc aménage-toi dans la journée des moments d'étude de Torah. Et ça, chaque jour, une goutte, une goutte, une goutte, et de Torah, et de Tfila, et de Tehilim, et de Tania, etc. Ça te fait rentrer dans un océan de clairvoyance, un mikvé de l'âme. Ce n'est pas les eaux du déluge qui vont te noyer. Pas du tout. C'est un mikvé de la Neshama, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va te donner une telle lumière de compréhension, une telle hauteur. Tu vois bien que tu demandes conseil à des gens de Torah quand tu as un problème. Rav, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Je ne sais pas quoi faire avec ce problème-là, avec cet enfant, avec ce travail. Est-ce que je dois choisir ça? Tu vois que tu demandes à des gens de Torah, des gens de sagesse, mais ce n'est pas à ce Rav que tu demandes, en réalité. C'est à la Torah qui est en lui. C'est à la lumière qu'il a dans ses yeux grâce à la Torah qu'il a étudiée, dans lequel il est, de laquelle il est rempli. Donc tu vois bien que la Torah, elle te donne cette hauteur, cette lumière intérieure qui fait que tu vois clair, telle une torche dans le noir du déluge. Ah, il y a quelque chose qui s'est allumé. J'ai compris ce qui se passe ici. J'ai compris ce qu'on attend de moi. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont chercher cette lumière ailleurs. Et ce n'est pas la vraie lumière, c'est la lumière électrique. C'est la lumière artificielle, tels les feux d'artifice. Elles t'éclairent à un moment, mais finalement, ça revient souvent à la case départ. Et cette lumière-là, c'est souvent une fuite. Une fuite en arrière, en réalité. Il y en a qui vont chercher cette lumière dans les films. Il y en a qui vont chercher cette lumière dans les boîtes de nuit. Il y en a qui vont chercher cette lumière-là dans les lachonara, dans les. Et viens, on commence à parler des autres, et ça calme à l'intérieur. Parce que quand tu commences à parler des autres, toi, tu te grandis, Bassof. Il y en a qui vont chercher cette lumière-là chez d'autres, dans d'autres sciences, dans des choses profanes. Mais finalement, Bo Ela Teva. Rentre dans les mots. C'est exactement là que tu trouveras ta véritable lumière. Et cette lumière-là, à force de l'avoir étudiée, à force de l'avoir d'avoir dit, d'avoir prononcé ces mots saints de la Torah, ces mots saints de la Tfila, des Tehillim, du Tanya, des Nishpat Kol Chai, tout ce que tu fais comme mitzvot et comme Torah, ça va créer une lumière en toi qui fait que les soucis dans lesquels tu es, Chas v'shalom, que Dieu t'en préserve, eh bien, tu les verras d'une autre manière. La metziout, tu ne peux pas la changer. La réalité, ta réalité, tu ne pourras pas la changer. Tu ne peux pas la changer, en tous les cas pour le moment. Mais par contre, ce que tu peux changer, ce que tu peux décider, c'est de les voir d'une autre manière. Et les lunettes, les bonnes lunettes, Pour les voir d'une autre manière, c'est uniquement les mots de la Torah et de la Tfila. Ça, c'est Bo El Ateva. Regardez comment un sujet qui concerne, on est en 5782, eh bien, le déluge s'est passé en 1656. Bon, vous imaginez le nombre de millénaires, ok? Regardez comment un sujet, un récit, que la Parashat HaShavua, elle te raconte, regarde combien, avec les lunettes de la Chassidoute, c'est-à-dire avec l'explication profonde de la Chassidoute, tu en tires, c'est pas tu peux, tu en tires une leçon dans l'ici et maintenant. Parce que la Torah, elle est actuelle, elle est authentique et elle est moderne. Et ça, c'est ce que te disent les psychologues, etc., peut-être. Mais ils ont une source. Cette source, c'est Torah. Et quand tu commences à voir la réalité d'une autre manière, et ben, tu sais ce qui se passe finalement. Finalement, à la fin, la réalité, elle change en bien. Tu comprends plein de choses. Tu comprends pourquoi ça t'est arrivé. Tu comprends pourquoi le bien fondé de ce défi à relever que Dieu a mis sur ton chemin. Tu comprends et tu arrives même à remercier HaKadosh Baruch Hu. Combien de personnes ont remercié Dieu de telle et telle chose qu'ils ont eue qui n'était pas très bonne. Mais finalement, ça s'est arrivé un grand cadeau. Ça les a attachés à HaKadosh Baruch Hu encore plus. Et ils ont compris que ça, c'était la clairvoyance et c'est transformateur de réalité. Torah et Tfila. Et les eaux du Maboul deviennent alors des mets noirs. Ça veut dire des eaux calmes, des eaux apaisantes. Et la raison du titre de la paracha. C'est extraordinaire parce que c'est contradictoire avec la paracha. Noir, ça veut dire voilà, c'est menoucha, c'est le calme, c'est on se pose, etc. C'est comme ça que ça devient que les soucis du quotidien sont transformés uniquement parce que tu as prié pour eux, tu as continué à étudier et tu t'es frayé un chemin de lumière dans l'obscurité de ta vie. Et ça, c'est très fort. Et si tu t'es accroché à la Avodat Hashem. Et regardez ce qu'il dit le Baal Shem Tov dans le livre Baal Shem Tov à la Torah, que j'ai chez moi. Il écrit, enfin le Baal Shem Tov n'a pas écrit, c'est ses élèves qui ont écrit, qui ont mis par écrit sa Torah, la Torah d'Achassidut. Et le Baal Shem Tov, il dit qu'il prend, il continue sur cette explication de la Teva, de l'Arche, qui dit que dans l'arche, Dieu il a demandé de faire Tzohar. Tzohar, c'est deux traductions, ou une fenêtre, ou une pierre précieuse. Mais en tous les cas, le sens commun de ce mot-là, c'est Tzohar, la chaîne aura. Ça veut dire qu'une Tzohar, c'est la chaîne de lumière. Ça donne de la luminosité. Ou parce que c'était une pierre précieuse qui éclairait, ou parce que c'était la fenêtre. Un vasistas comme ça qui laissait passer la lumière. Et le Baal Shem Tov dit, donc Tzohar t'as assez la Teva, Tzohar la Shon Ora. Tzohar c'est un langage de lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il explique Al Pi Chassidut, donc du coup on est dans les profondeurs. Vetevat la Shon Dibour. Pérouche, l'explication est la suivante. Lorsqu'un homme veut parler, lorsqu'un homme veut penser, il doit parler et penser dans la perspective de la lumière de la Torah. Et à ce moment-là, il sera rempli de Torah. Chez Amarshava, Ta'ir Be'adibur Batrala. C'est-à-dire que du fait qu'il est dans ses pensées, garder la conscience que il ne peut pas se noyer dans ces eaux du souci. Il ne veut pas se noyer. Donc il va trouver dans la tfila et dans la Torah, comme on a dit tout à l'heure, la lumière. Ça commence par la pensée. Et ça finit et ça continue par la parole. Et ça finira par l'action. C'est-à-dire que sa teva, sa lumière, son arche, sa maison, d'accord, sera rempli de lumière grâce au fait qu'il aura fait rentrer en lui cette lumière qu'est la Torah. Et le Baal Shem Tov continue en parlant de la tfila. Et il dit quelque chose de très, très beau. Parmi tout ce qu'il dit. Il dit que même la tfila, c'est aussi une lumière. Il explique comme ça. Il dit, « Bevadai min ha'evel ha'kadosh ha'yotse mi'piv yidabek yitdabek ve'yitraber im ha'evel ha'elyon hadabek elav ve'nichnas elav bitmidut. » Regardez ce qu'il dit. Que la buée de ta bouche, du souffle de ta bouche, la buée sainte, des mots saints de la tfila, il parle de la tfila. Les mots de la tfila sortent une buée. La buée sainte qui sort de ta bouche se colle, s'attache et s'unit à la buée des mots. Comment traduire? Ha'evel ha'elyon, la buée céleste. Tout ce que tu dis ici, ça a un écho là-haut. Tu parles ici, tes mots ils montent jusque dans les cieux. Cette buée, elle va jusque là-bas, jusqu'au trône céleste. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'attache à Kadosh Baruch Hu. Kol neshima ou neshima chez Adam noshev. Tout, chaque respiration que l'homme a, chaque inspiration et expiration qu'il envoie d'ici, de ce monde ici-bas, d'accord? D'ici-bas, elle monte vers les hauteurs et elles lui sont rendues. Elles lui sont rendues en réponse, en brachot, en écoute. Aucune fila ne revient vide, même si ça peut prendre 20 ans. Mais aucune fila ne revient vide. C'est incroyablement beau combien le Baal Shem Tov dit que celui qui parle ici-bas, chez lui, dans sa petite maison, dans sa petite chambre, dans sa petite pièce, avec son petit sidour, avec son petit livre de sa petite, son petit séfer de Torah, et qu'il sort du souffle de sa bouche, ce souffle-là monte jusque dans les cieux. Et il s'attache à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh Baruch Hu le lui rend. C'est comme un circuit fermé. Mais c'est incroyable. Et c'est ça ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Donc, sur ça, j'ajoute le Midrash Tanhuma, qui complète, enfin, dans la chronologie, c'est d'abord le Midrash qui est bien avant le Baal Shem Tov. Rabbi Tanhuma, il dit la chose suivante. Il dit que, alors non, ça je vais vous le dire après avoir donné cette introduction. C'est ce début. Donc on a bien compris que derrière chaque élément négatif, pour résumer cette sira du Rabbi, il y a en réalité une kavana positive, il y a une intention divine qui est positive. À nous de savoir la décrypter, à nous de savoir aller débroussailler avec ces défis que Dieu nous tend pour nous finalement nous élever vers le haut. Et c'est grâce à cela que Bezrat Hashem, nous réussirons à nous améliorer, à grandir et à devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est tout le but de la création de l'homme. Le Naaseh Adam, c'est pour faisons l'homme, Akadosh Baruch Hu, à qui parlait-il? Pose les Chachamim, plusieurs réponses, cette question elle a plusieurs réponses, mais une des réponses, c'est le Baal Shem Tov qui le dit. Naaseh Adam, Hashem, il parlait à l'homme lui-même. Toi et moi, faisons l'homme. C'est-à-dire que mets du tien, mets de toi, dit Hachem à l'homme, pour mériter cette couronne qui s'appelle l'être humain. Et j'embraye directement sur les premiers mots de la paracha, et c'est sur ça que je vais terminer, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure. Hele toldot noar, noar ish tzadik tamim haya betorotav, et ha Elohim italer noar. Voici les descendants de Noar, virgule. Noar, c'était un homme juste, entier, qui marchait, qui se démarquait dans sa génération. Et Noar marchait dans les voies de Dieu. Et le Midrash Tanhuma, d'abord Rashi pose la question et il dit, et les toldot Noar, Noar. Quand on te dit voici la descendance de Noir, pardon, on aurait attendu à ce que, on se serait attendu à ce que la suite du passouk, c'était son fils, ses fils, ses trois fils. Et les toldot de Noir, Shem, Ham et Yafet. Il a eu trois fils qui s'appelaient Shem, Ham et Yafet. Voici les descendants de Noir. Non. On te dit et les toldot de Noir, Noir, Ish Tzadik. Si tu me dis les descendants, pourquoi tu ne me le dis pas? Quand est-ce qu'on te le dit? Dans le deuxième passouk. Mais dès qu'on te dit les descendants de Noir, on te prononce, il est écrit une deuxième fois Noir. Comme si que le descendant de Noir, c'est Noir. Et bien c'est exactement ça. Rashi, il explique, Rashi Akadosh, il explique que, je vais prendre les mots, il dit que les premiers descendants, le premier enfant de soi-même, d'une personne, c'est elle-même. Les premiers fruits d'une personne, les premiers enfants d'une personne, c'est elle-même. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire elle-même? Ce sont ses Maasim Tovim. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que Rashi, il explique que une personne, avant d'avoir des enfants biologiques, elle a déjà des enfants. Et quels sont ses enfants? C'est ses Maasim Tovim. Sa manière dont elle agit, ses actions, ses paroles, ses comportements, ses attitudes, tout ce qu'elle endosse, ce sont les fruits qui sortent d'elle-même. Donc, avant de se marier, en réalité, avant d'avoir des enfants, eh bien, on est déjà le fruit de soi-même, le résultat de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. On est le résultat de cela. On est ses propres fruits. Et c'est la raison pour laquelle, dit Rashi HaKadosh, qui prend ça qui prend ça dans la Gemara Sanhedrin, eh bien, et les toldot noirs, eh bien, c'est bien noir. Voici les descendants de Noir. Le premier descendant de Noir, c'est Noir lui-même. Regardez comment c'est beau. Si tu crois que tu n'as pas de descendant, tu es le premier enfant de toi-même. Ça veut dire qu'en réalité, tu es la finalité de toute ton éducation, de toute ton éducation personnelle, de tout ce que tu t'éduques à faire tous les jours. On le voit sur toi. Et vient le Midrash Tanhuma Bar Abba, Rabbi Tanhuma Bar Abba, il dit: Pri tzadik etzraim. Michelet, il ramène un passouk dans Michelet. Pri tzadik etzraim. Il dit que les fruits d'un tzadik, ça veut dire les enfants d'un tzadik, on va dire, c'est ce qu'il donne. C'est quoi? C'est Etzraim. C'est Etzraim, c'est la Torah. Alors, ce qui veut dire que donc, c'est son étude de la Torah. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, il raconte comme ça. Bechah she Adam istalek mina olam belo banim. Au moment où un homme quitte ce monde sans enfant, Hashem Yishmor, il est stérile. Il n'a pas laissé d'enfant dans ce monde. Hu metzer hu bocheh. Il est stressé, il est en détresse et il pleure. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui dit: Lama ata boche? Pourquoi tu pleures? Mipnei shelo amadta pri ba'olam hazeh? Parce que tu n'as pas laissé de fruits dans ce monde, tu n'as pas laissé de descendants dans ce monde. Yesh lecha pri yafe min habanim. Sache que tu as un fruit magnifique, autant que les enfants. Amar lefanav. L'homme lui dit, à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Eze pri she amadeti. Je n'ai laissé aucun enfant. De quel fruit tu parles, Hachem? Amar lo Kadosh Baruch Hu, ha Torah. Tu as laissé la Torah. Tu as laissé ces heures de limoud. Tu as laissé toutes les mitzvot et la Torah que tu as étudiées. Parce que Torah et mitzvot, ça va ensemble. Ce sont les fruits que tu as laissés, qui sont l'équivalent de tes enfants. Shekatuv ba, pri tzadik, etzraim. Les fruits d'un tzaddik, c'est Etzraïm, c'est quoi? C'est Banim. Banim Eino Omer et la pri tzaddik. Des enfants sont appelés, les enfants sont appelés, sont comme des pri tzaddik, c'est-à-dire la Torah qu'il a étudiée, c'est comme ses, c'est comme son enfant. Vechen toldotav shel Adam elu maasav hatovim. Et ainsi, pas que la Torah, mais également les bonnes actions que l'homme a fait, eh bien, c'est ses descendants. C'est Vechenu Omer, c'est la raison pour laquelle il est écrit. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik. Vous avez vu comment c'est beau? Non seulement si tu as des enfants, bon, Hachem. Si tu leur donnes Torah, Odoul Hachem. Mais même si, Chas Veshalom, une personne, elle quitte ce monde sans laisser d'enfants, toutes les mitzvot qu'elle a faites, toute la Torah qu'elle a étudiée, c'est les myriades d'enfants qu'elle a laissés dans ce monde. Par exemple, même ses élèves, c'est aussi ses enfants. Si grâce à elle, grâce à la personne, un prof qui enseigne Torah, et grâce à sa Torah, ses élèves pratiquent, ce sont les maasim de ces élèves-là, eh bien, sont aussi les enfants de ce prof. Vous vous rendez compte hein, comment elle est belle la Torah, comment elle nous remplit, comment t'en as besoin, comme un médicament tous les jours contre la douleur, c'est le doliprane de l'âme. Comment quelqu'un il peut vivre sans ça, sans tefila, sans Torah? Mamash, ça doit être clair comme de l'eau de roche. Et je vais terminer avec un point. Bon, chaque année, je choisis quelque chose d'autre, mais la base, c'est toujours c'est la même. Un point pédagogique, justement. Vous savez que justement, parlons des enfants, et c'est avec ça que je vais terminer. Les enfants reçoivent des parents une éducation dès l'instant et qui les marque et qui reste en eux jusqu'à ce qu'ils vieillissent, dès l'instant où l'éducation est sincère et authentique, dès l'instant où les parents sont authentiques avec eux-mêmes. Ils ne se dérogent aucune permission. C'est-à-dire qu'ils restent droits dans leurs bottes, dans l'éducation. Et pas tant dans ce qu'ils ont dit, mais plutôt dans ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont eux-mêmes, même lorsqu'ils ne sont pas devant leurs enfants. Parce que vous savez qu'un enfant ressent le émettre dans les paroles de leurs parents. C'est très très important. Un enfant, il est kadosh, il est pur. Et il ressent si ta parole, elle est sincère ou pas. C'est pas fais ta tefila et ne t'a jamais vu prier. Ce n'est pas ne regarde pas de film, mais quand il va dormir, tu regardes un film. Ou bien, peu importe, d'accord? À moins qu'il le sache, etc. Il y a une sincérité, une transparence qui s'installe. Ça, c'est autre chose. Mais des parents qui cachent, qui donnent une image d'eux à leurs enfants et qui en réalité ne sont, sont le contraire derrière, les enfants le sentent tout de suite. Et c'est quelque chose qui ne les marque pas. Le chinour, il aura un problème à ce moment-là. Et on sait très bien qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est de mettre dans nos paroles notre cœur, notre âme, notre profondeur. Et c'est ça qui fait que l'enfant est marqué par le chinour des parents. Et de toute façon, c'est valable tout le temps. C'est valable pour toutes les relations. Une maman qui est à la maison, mais qui est tout le temps sur son portable, c'est une maman qui est présente, mais uniquement au niveau du corps. Mais pas au niveau du cœur et de l'âme. Un papa qui est présent à la maison, mais il est en train de jouer à ses jeux vidéo, eh bien, il est présent, oui, mais uniquement le cœur. Uniquement le corps, pardon. Sa présence, elle est là, mais il n'y a pas de présence réelle. Donc, ce n'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend. Akadosh Baruch Hu attend l'authenticité dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, et que nous soyons entiers. Si on est avec notre enfant, on est complètement avec lui. Et on le lui dit. Regarde, cette demi-heure-là, cette heure-ci, maman, elle a beaucoup de choses à faire. Mais cette demi-heure-là, je te la consacre. Elle est que pour toi. Personne ne peut nous déranger. Et ça veut dire que l'enfant, il doit savoir aussi, il doit être au courant que les parents sont occupés aussi. Mais c'est tellement apaisant qu'il sache que maman est occupée, mais je compte quand même pour elle. La même chose pour notre relation de couple, la même chose pour notre mari, la même chose pour le mari, pour la femme, envers la femme, etc. Ce n'est pas qu'il est là et qu'il répond à ses WhatsApp et à ses SMS. Quand il est avec sa femme, alors qu'il lui accorde un moment où il est entier avec elle, où il l'écoute. Parce qu'une femme, ce qu'elle a besoin, c'est d'écoute. Elle a besoin de sortir et d'écoute. Elle a besoin aussi de plein de choses à part ça, mais ça, c'est la base. Et elle a besoin d'une écoute, et une écoute sincère, une oreille active. Une écoute active, pardon. Ça veut dire quelque chose où le cœur est là. Pas, oui, oui, vas-y, je t'écoute, parle-moi, mais en même temps, je tape quelque chose sur l'ordinateur. Il tape quelque chose sur l'ordinateur. Non. Ou bien le contraire. Quand elle reçoit son mari, elle doit être complètement là au moment où elle le reçoit. Même si ça dure 10 minutes, mais elle a été là. Eh bien, c'est pareil pour les enfants, donc. Et celui qui en a beaucoup souffert dans la Gemara, c'est un enfant qui n'a jamais, qui a très mal tourné finalement, et qu'on ne nomme même pas, on l'appelle l'autre. Alors, j'ai entendu de Elisha, du Rav Shapira, Elisha Shapira, pourquoi il s'appelait Acher, l'autre. Au point que Netanaïm l'ont appelé l'autre. Une fois, il est. Mais avant de vous dire ça, je vais d'abord vous parler d'Elisha. Elisha, il a dit. Elisha ben Avouya, attention, je parle pas de Elisha Shapira là. Hein. Elisha ben Avouya dans la Gemara, qui était le maître de Rabbi Meir ben Hanès, il a dit qu'il a mal tourné à cause de sa brite, Mila. Avouya, il était un noble, quelqu'un de très noble à cette époque-là. Et à la brite Mila de Elisha, il a invité tous les Talmidei Chachamim. Mais il a apporté, il a amené des danseuses grecques, il y avait des musiques grecques, pas des danseuses. Il y avait des musiques grecques, goy donc, pour la Brit Mila de Elisha. Et la Brit Mila s'est passée, les Talmidei Chachamim étaient là, et comme il a mis après la musique goy, la musique grecque, les Talmidei Chachamim se sont mis de côté dans une pièce. Et ils ont continué à étudier, ils ont commencé à étudier Torah, les Tanaïm, de l'époque de Rabbi, de avant Rabbi Meir. Donc on peut imaginer que c'était waouh, encore plus. Et Elisha, il rentre dans cette pièce et il voit un feu qui les entoure. C'est normal, la Torah, c'est le Hesh, c'est la lumière, c'est le or. Et il a dit, moi aussi, je veux que mon fils, il soit comme ça, il ait ce or-là. Et il a dit, je vais le mettre dans la Torah, je vais l'éduquer, je vais l'élever parmi les Talmidei Chachamim pour qu'il puisse apprendre et avoir ce or. Ce qui veut dire que Elisha, il avait l'objectif uniquement de lui apprendre Torah, qui n'était pas le Shem Shamaïm, qui n'était pas pour Akadosh Baruch Hu, qui était uniquement pour s'enorgueillir et dire, regardez mon fils comme il est un grand Talmid Chacham, il fait descendre du feu du ciel quand il étudie Torah, pour son orgueil personnel. Et malheureusement, Elisha ben Avouya, il a grandi comme ça. Il a grandi comme ça. Il était très très très, c'était un grand Talmid Chacham, c'était le maître de Rabbi Meir Balanès. Le maître de Rabbi Meir Balanès. Mais il a fini par mal tourner, et très mal tourner, au point qu'il ne faisait plus Shabbat, il faisait des choses très 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 graves. Et d'ailleurs, j'ai entendu de Rav Elisha Shapira, maintenant, voilà, c'est le même prénom, mais pas le même personnage du tout, qui a expliqué pourquoi on l'appelait Acher, l'autre, parce que les Chachamim m'ont dit, il a tellement mal tourné qu'on nomme même plus son nom, on l'appelle l'autre. Ah, c'est lui l'autre, c'est méprisant. Et pourquoi? Il a expliqué une fois que... Il était rentré dans une maison de prostituées, Elisha ben Avouya, et les femmes là-bas, elles étaient choquées de le voir, dans une maison close comme ça, elles étaient choquées de le voir, et elles ont dit, c'est pas possible que ce soit Rabbi Elisha ben Avouya, c'est pas possible que ce soit lui qui soit là. Rabbi Elisha, il est là? Alors, il y en a une qui a dit, non, c'est un autre! C'est Acher, c'est pas Rabbi Elisha, c'est pas possible. Ça doit être un autre Elisha. Et de là, on l'a appelé Acher, l'autre. Et donc, ce qui veut dire que il dit, j'ai eu ce problème, j'ai eu un problème dans mon éducation parce que la racine, elle était mauvaise. Parce qu'à ma Brit Mila, tout s'est passé. Parce que mon père m'a mis dans une. Alors évidemment, il accuse son père. Okay. C'est très facile aussi d'accuser les parents quand on tourne mal. Chacun, il a pris son libre arbitre et il décide seul de quoi il veut devenir. Okay. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Il dit, il a accusé son père. Il y en a qui accusent Dieu d'avoir tous les malheurs. Ouais, c'est à cause de lui, voilà ce qu'il m'a envoyé, alors que moi, j'ai fait des efforts. Voilà. On cherche toujours des bouclés, des boucs émissaires pour se déculpabiliser et se nettoyer de tout problème. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Voilà, comme ça, moi, j'ai pas de problème, c'est lui qui a un problème. Ok, ça, c'est une très mauvaise tactique. Et c'est la tactique qu'a pris Elisha ben Avouya. Mon problème de religion, il vient de mon père. Pourquoi? Parce que mon père, il a voulu me mettre dans Torah uniquement pour que j'aie le feu, pour que je sois, waouh, je brille devant tout le monde et qu'il s'enorgueillisse de ça. Alors, c'est pas faux à 100%. Et de là, les Chachamim, ils disent, Acharit, pardon, Acharit davar mirishito. La fin de chaque chose se définit par son début. C'est-à-dire que tu veux voir un projet quand il aboutit à la fin, ça veut dire que son début était bien. S'il aboutit, il est exactement comme tu le veux, il est beau, il grandit, c'est que les motivations du début, elles étaient magnifiques. Un arbre, si tu le vois grand, beau, fort, avec un tronc solide et plein, plein, plein de branches, c'est que les racines, elles sont enfoncées et nombreuses dans le ventre de la terre. Quand tu plantes un arbre tordu, les bases, elles sont mauvaises, le haut, il sera encore pire. Ce qui poussera sera complètement tordu. Et on ne pourra plus le changer. Enfin, difficilement le changer. Quand tu construis une belle maison, un architecte construit une belle maison, tu vois la maison, magnifique. Quand elle tient bien, elle ne s'écroule pas, elle n'a pas de fissure, etc. C'est qu'il n'y a aucun problème dans les fondations. Quand tu éduques un enfant, c'est la même chose. Quand tu le vois à la fin comme ça, c'est que les motivations premières, dès sa naissance, dès le biberon, dès la Brit Mila, 8 jours, étaient bonnes. Les motivations étaient sincères. Elles étaient justes. Et la fin justifie les moyens. Ce qui veut dire que ce qui arrive à la fin, on comprend le début. Sauf moi, c'est ma marche à batterie là. L'éducation d'un enfant, c'est la même chose. Il faut commencer avec droiture, avec fidélité. Il faut amener les enfants dans des bonnes écoles, leur enseigner Torah et ne pas se dédouaner des professeurs qui enseignent Torah en disant c'est bon, il apprend tout à l'école, à la maison, il n'y a rien besoin. Pas du tout. L'enfant, dit le rabbi, emporte avec lui dans sa vie l'éducation de la maison d'abord, de ses parents d'abord, de la manière dont ils se parlent, de la manière dont ils font Torah, les mitzvot qu'ils emmènent à la maison, la tzedaka, le emet, la fidélité, la pureté. Ça, c'est tous ces éléments qui feront que l'arbre qu'il sera plus tard sera solide. Et c'est comme ça qu'on étudie, on éduque un enfant. Hakol taloui be'atrala. Tout dépend du début. Hakol taloui be'atrala. Tout dépend du bereshit. Du bereshit de tout. De la journée que tu commences avec Bonéani. De l'enfant que tu commences à éduquer dès qu'il est bébé. N'attends pas qu'il soit scolarisé dans les meilleures écoles pour dire de toute façon il aura des super profs de Kodesh, ça sera bon. Non. De toute façon il sera dans ses super yeshivot, il aura tel rave. C'est bon, il va être attrapé. Non. C'est bereshit. Hakol taloui be'atrala. Dit les chachamim. C'est de tout dépend du début. Et le début, c'est toi. C'est tes mots. C'est ta tefila. C'est ta Torah. C'est l'ambiance que tu mets à la maison. C'est la pureté avec laquelle tu l'as conçue. Ça, c'est l'éducation d'un enfant. Et c'est comme ça que on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Que Dieu ne veut pas l'extérieur. Dieu ne veut pas l'artifice comme certains parents veulent donner à leurs enfants que les titres extérieurs pour qu'ils soient glorifiés. Dieu veut l'intériorité. Dieu veut que nous mettions les graines du émet, de la fidélité, de la sincérité et de toutes les mitzvot, de la pureté dans le cœur de nos enfants, dans notre cœur à nous, et pour qu'ils passent chez nos enfants. Parce que « Eletol dot noir, noir », les premiers fruits de toi-même, c'est toi. Avant que ton enfant soit, tu dois être d'abord. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend que tout ça se passe avec l'intériorité, avec le émet. Dieu ne veut pas les pieds, ne veut pas le corps, ne veut pas le savoir, il veut l'être, il veut le savoir-être. C'est-à-dire que peu importe la Torah que tu connais, peu importe les règles que tu mets à la maison, si elles ne concernent que l'extériorité, les études, etc., que c'est que l'extérieur et l'intérieur est vide, alors on est passé à côté d'un grand projet. Yéhiratson, que Dieu fasse, que nous soyons remplis de profondeur, remplis d'intériorité, que notre intériorité soit remplie de profondeur, de fidélité, de pureté, de émet, afin de Torah et de Tfila, afin de voir clair dans ce déluge extérieur, que notre maison soit remplie de tout ça, parce que la Teva, c'est le Baït, que notre maison soit remplie de tout ça, pour qu'elle puisse tenir et qu'on puisse voir clair dans toutes ces eaux diluviennes qui coulent à l'extérieur, qui sont dangereuses à l'extérieur. Et que Dieu fasse que nous ayons ce mérite de pouvoir donner des fruits aussi beaux que nos actions, que nos paroles et que nos pensées. Shabbat shalom umvorar, que Dieu vous protège et que vous ayez un Rosh Chodesh mevorar, une année mevorechet, une année bénie, un mois béni. Et tout ce que vous faites, que vous trouviez la lumière et la bracha. Shabbat shalom. Merci beaucoup.